Là, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'épître de 1er épître de Jean au chapitre 3. 1 Jean et au chapitre 3. Si vous êtes habitué aux épîtres de Jean, vous verrez dans cette première épître qu'il insiste sur la vie pratique du chrétien. Et ce que c'est d'être en communion avec le Seigneur. Et il apporte un certain nombre de certitudes. Hein, cette épître est écrite pour amener de l'assurance aux croyants sur la vie éternelle. Au chapitre 5 et au verset 13, il dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc c'est une épître qui est pas pour décourager, mais pour encourager, apporter de l'assurance. Mais il apporte, elle fournit aussi un certain nombre de tests pour savoir si on est sur la bonne voie. Et il y a beaucoup de phrase qui commence avec « si quelqu'un fait ceci ou quiconque fait cela » dans cette épître quand vous la lisez. Donc je vous encourage à la lire. Et cette épître nous laisse voir combien aussi la question du péché est importante. Dans les versets qui vont nous intéresser, donc chapitre 3, versets 4 à 10, on peut voir que Jean établit un rapport entre Jésus-Christ, son sacrifice, le péché, et puis les chrétiens. Alors, si on regarde ces quelques versets, on va lire du 4 à 10. Ici, il dit « Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. » Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Et celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Jusque-là, la lecture. Donc vous voyez combien de fois il parle de péché dans ce petit extrait que nous avons lu. Et c'est un thème qui revient. Et l'épître de Jean n'est pas comme l'apôtre Paul, quoi. Il ne fait pas un développement linéaire des choses. Mais on dit souvent qu'il fait un développement un peu circulaire. Il prend quelque chose et puis il revient là-dessus, il le réamplifie. Donc c'est une lecture un peu comme celle-là qu'on a. Donc les thèmes que l'on voit quelque part apparaître dans l'épître de Jean ont déjà apparu ailleurs et parfois sont présentés avec un peu plus d'amplification. Dans ces versets que nous avons lus, on peut voir que les versets 4 à 7 sont le parallèle des versets 8 à 10, 8 à 9 on pourrait dire. Hein. On trouve la même chose, il est question du péché, de ce que Jésus a fait par rapport au péché et des conséquences logiques pour les croyants. Dans les versets 4 à 6, hein, on pratique le péché transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Et au verset 8, il dit celui qui pratique le péché est du diable, etc. Et puis au verset 7, il dit celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Et puis au verset 5, il dit or vous savez que Jésus est paru pour ôter le péché. Et au verset 8, deuxième partie, il dit « Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Et puis, au verset 6, il dit « Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. » Et au verset 9, il dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. » On a quelque chose qui est un peu parallèle ici. Hein. et qui donne de la profondeur, on pourrait dire, à ce que l'apôtre Jean enseigne ici. Alors, on veut suivre ce schéma-là ce matin et considérer comme thème le péché, le sacrifice de Christ et le chrétien. En un temps où on va tout à l'heure célébrer la table du Seigneur, eh bien, je crois que ce passage nous invite à considérer le péché dans sa nature, le péché en rapport avec le sacrifice de Christ et puis le péché en rapport avec la vie du chrétien. Donc nous voulons premièrement considérer ces trois choses et les comprendre. Et ce que l'apôtre Jean dit ici, c'est qu'il faut comprendre ces choses. Il faut comprendre le péché dans sa nature, il faut comprendre le but de l'œuvre de Christ et il faut comprendre aussi ce qu'est le chrétien dans sa communion avec Christ. Donc, premièrement, le péché, sa nature et son origine. Si on faisait un petit sondage et qu'on demandait de donner une définition du péché, je pense qu'on aurait beaucoup de choses de manière différente de le définir. Et le mot en lui-même n'est plus très populaire. Aujourd'hui, on ne parle plus de péché. Il n'y a pas dans l'opinion publique de résonance quand on parle de péché, comme il y en avait autrefois. C'est un mot qui dérange. Je me souviens toujours de la fois où j'avais parlé il y a longtemps à un collègue et puis je lui ai dit « mais ça, c'est un péché ». Il m'a dit « oh là, oh là, oh là, oh là, oh là ». Hein ? C'est tout de suite les grands mots là, c'est quoi ça ? Et donc c'est un mot qui secoue quand on l'emploie. Et vous pouvez passer des heures et des heures, des journées, peut-être des mois, à écouter ou les infos, à regarder des films à la télévision. Je crois que vous pouvez passer tout ce temps sans entendre une seule fois le mot péché. On entendra faute, on entendra erreur, on entendra faux pas, on entendra maladresse, mais rarement, pour ainsi dire, pas du tout le mot péché. Parce que le péché, utiliser le péché, ça a quelque chose de culpabilisant. Et j'ai parlé une fois avec un autre collègue qui, lui, avait enseigné dans une école privée catholique aussi. Et à table, on discutait et puis et il me disait, je n'aime pas comment l'apôtre Paul écrit les choses. Il me dit le péché, par exemple. Je savais très bien ce que ça voulait dire, le péché. Il me dit le péché. Il me dit ça, c'est culpabilisant. Il dit quand on dit faute ou erreur, ça donne la possibilité de se rattraper. Mais quand on dit péché, ça donne aucune possibilité. Il dit et donc c'est vraiment extrêmement culpabilisant. Et c'est intéressant de voir comment l'apôtre Jean décrit les choses ici. Il dit quiconque, verset 4, quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Le péché est transgression de la loi de Dieu. C'est ainsi qu'il définit le péché. Le mot ici veut dire manquer la cible. Hein. Et Jean dit que le fait de manquer la cible, de rater, de ne pas être à côté, de ne pas être là où Dieu veut que l'on soit, il dit que c'est une transgression, une violation ou un mépris de la loi de Dieu. Donc le péché est toujours à considérer premièrement quand on lit l'Écriture en rapport avec la loi de Dieu. Et nous avions appris ça dans les vérités fondamentales. Nous avions dit que le péché est tout manque de conformité à la loi morale de Dieu au niveau de nos actes, de nos paroles ou de nos pensées. Ce n'est pas conforme. C'est à côté. On a raté la cible. C'est ainsi que la Bible définit. Alors, on trouve d'autres définitions du péché dans la Bible. 1 Jean 5, verset 17, par exemple, dit à la fin du verset, je crois que c'est 1 Jean 5, verset 17, il dit « Toute iniquité est péché ». D'accord ? Donc, le péché, c'est l'ensemble des iniquités que l'on peut commettre. Romains 14, 23 dit « Tout ce qui n'est pas produit d'une conviction est péché ». Donc on peut trouver des définitions comme celle-là. Et puis, il y a plusieurs mots qui, dans la Bible, traduisent le péché. Iniquité, méchanceté, on a vu transgression, rébellion. Mais tous, quand même, font prendre conscience, je crois, du fait que le péché est une rébellion ouverte contre la loi de Dieu. L'apôtre Paul dit qu'il n'aurait pas connu le péché si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras point ». Quelque part, la loi révèle ce qu'est le péché, et le péché est une violation de cette même loi. Alors, Jean ne dit pas que le péché se manifeste par une attitude à l'égard de la loi, mais que le péché est dans sa nature même, la violation de la loi. Et la transgression dont il parle n'est pas le résultat du péché, mais il dit que la transgression, c'est le péché même. Péché, c'est transgresser, c'est enfreindre la loi de Dieu. Quelle que soit la manifestation du péché, quelle que soit la forme, quel que soit ce que l'on fait comme péché, il est une transgression de la loi de Dieu. Et Jisera, il disait ça ainsi, il disait « Le péché consiste à faire, à dire et à penser ou même imaginer, quoi que ce soit, qui n'est pas parfaitement conforme à la pensée et à la loi de Dieu. » C'est-à-dire tout ce que je peux faire avec mes mains, que je peux dire avec ma bouche, que je peux penser dans mes pensées, que je peux même imaginer, il dit, quand ça n'est pas conforme à ce que la loi de Dieu dit, je suis en train de pécher. Vous vous souvenez de Simon le magicien, hein, dans Actes chapitre 8, je crois, hein, qui s'était, entre guillemets, converti, on aurait pu penser, qui s'est fait baptiser. Et puis, quand il a vu que, parce que c'était Pierre, quand Pierre est venu, il a vu que Pierre pouvait faire des miracles, il a dit, oh, hein, il a voulu donner de l'argent pour pouvoir avoir ce don, et que lui aussi soit capable d'imposer les mains aux gens. Et Pierre lui a dit que ton argent périsse avec toi. Et puis il ajoute, parce que tu as eu la pensée. Hein. Il parle de son péché, il dit, tu as eu la pensée. Et puis il dit, je crois qu'il dit, prie pour que... Attends, je veux regarder ça, je veux bien le dire quand même. Donc c'est dans Acte 8, je crois. Acte 8, et nous pouvons lire ça au verset 20, je crois par là, hein, Acte 8. Ah, je ne suis pas dans Acte 8. Et au verset 20, Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Et verset 21, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie pour que la pensée de ton cœur te soit pardonné, s'il est possible. Ici, donc il dit que ce que tu as pensé est un péché. Et il faut prier pour que cette pensée même te soit pardonnée. Quand on pense faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, il dit que ça aussi c'est un péché. C'est une violation de la loi de Dieu. Peu importe sous quelle forme elle arrive, sous forme d'acte, ou sous forme de pensée, ou sous forme de parole, elle est une violation de la loi de Dieu. Et Jean, ici, veut que tous les chrétiens pensent à l'égard du péché de manière correcte. Et particulièrement ici, dans ce que le péché est dans sa nature. Un pasteur du 18e siècle disait ceci, 19e siècle disait ceci, il dit, c'est de la notion que nous avons du mal, de ce que l'on pense être le mal ou du péché, que dépend l'ensemble de notre foi. Si à mes yeux le péché n'est qu'une imperfection relative ou un désordre excusable, je croirai sans peine que pour sauver l'homme, il suffit de l'appuyer sur lui-même, de lui enseigner une morale pure et de lui proposer un sublime exemple. Si je pense que le péché c'est juste une faute, c'est juste une maladresse, c'est pas grave, c'est mal, mais bon, après tout, il y a pire, quoi. Hein? Si c'est comme ça que je pense du péché, on va penser que, on finit par penser que ce qu'il faut, ce dont j'ai besoin, c'est juste un bon exemple. La prochaine fois, je ferai mieux ici. Mais Jean dit non, 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 le péché, c'est vraiment offenser Dieu, c'est enfreindre la juste loi de Dieu. Et même si on utilise des mots moins culpabilisants pour le définir, il n'en demeure pas moins que le péché reste la transgression de la loi de Dieu. Changer le nom du péché ne changera rien à sa nature. Hein. Vous pouvez avoir un tigre qui arrive en face de vous, et puis vous dites, c'est un chat, d'accord ? Et s'il a faim, il ne sera pas comme un chat. D'accord ? Le fait que vous ayez changé son nom ne va pas changer sa nature. Hein ? Il va agir selon sa nature. Que vous l'appeliez chat, que vous l'appeliez oiseau, comme vous voulez, ça n'a rien à voir. Et c'est pareil. On a tendance à faire pareil avec le péché. On appelle ça, bon, c'est juste une faute, c'est juste un ceci. Ou, bon, écoute, ça arrive à tout le monde. Dieu dit, c'est grave. C'est la violation de la loi de Dieu. Donc le péché est transgression de la loi dans sa nature, c'est ce que dit l'apôtre Jean ici. Mais il dit aussi que le péché a le diable pour origine. Regardez au verset 8, 1 Jean chapitre 3 et au verset 8, il dit « Celui qui pratique le péché est du diable ». Donc d'abord il présente le péché dans son origine, dans sa nature comme offense à la loi de Dieu. Et puis là, il dit, il présente de qui ça descend. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Et puis au verset 9 et au verset 10, il dit, c'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il dit, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Sous-entendu, il est du diable, ni celui qui n'aime pas son frère. Et donc Jean définit le péché par sa nature, transgression de la loi de Dieu, mais aussi par son origine, le fait qu'il vienne du diable. Il dit le diable pêche dès le commencement, dès sa chute, il pêche. Il est le grand inspirateur de tous ceux qui pêchent. C'est ce que ça veut dire ici, de tous ceux qui pratiquent le péché. Et ici, on voit que Jean partage le monde en deux catégories. D'un côté, les enfants de Dieu et de l'autre, les enfants du diable. Et Jean, si vous lisez l'évangile, les épîtres de Jean, c'est comme ça. Lui, c'est noir ou c'est blanc. Il dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que Dieu est, au début, lumière. Et qu'il n'y a un point en lui de ténèbres. Ici, il dit, vous êtes enfant de Dieu ou enfant du diable. Il dit, il parle de la mort ou de la vie. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Tout ce qu'il dit. Celui qui aime, il est dans la vie. Il parle de mensonge ou de vérité. Ou il parle de haine ou d'amour. Il ne dit pas ce qu'il y a entre. Pour lui, il n'y a pas de entre-deux. On est d'un côté où on est de l'autre. Et je dis pour lui, c'est pas pour lui, c'est pour le Saint-Esprit qui inspire ces choses. Et donc, Jean partage le monde pour les croyants qui le lisent en deux catégories de personnes. Il dit, il y a les enfants de Dieu d'un côté et les enfants du diable. Les enfants du diable, ils pêchent. Et après, il dira, les enfants de Dieu, ils ne pêchent pas. D'accord ? On va le voir un petit peu plus tard. Ainsi, celui qui pêche, dit-il, continuellement, sans que ça le trouble, a pour père le diable, parce que le péché vient du diable. Il veut que les chrétiens soient conscients de cela. En parlant avec les Juifs, rappelez-vous, Jésus avait une grande discussion dans Jean chapitre 8, l'évangile de Jean chapitre 8, et c'est peut-être pour ça que Jean reprend ces éléments de cette manière-là. Et à un moment, Jésus discute avec ces Juifs, et puis eux, ils disent « Non, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons pour père Abraham, Dieu est notre père. » C'était des Juifs, des gens qui étaient attachés à la loi de Dieu, qui faisaient tout pour suivre Dieu dans leur religion extérieure. Et ce que Jésus répond est intéressant. Jésus dit ceci en Jean chapitre 8, verset 44, il dit « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Il dit « Si vous aviez Abraham pour père, eh bien, vous ne chercheriez pas à me tuer. Abraham, ça, il ne l'a pas fait. » D'accord ? Mais ce que vous faites montre de qui vous êtes fils. Puisque vous cherchez à me tuer, il dit « Vous êtes du diable parce que le diable, il est meurtrier. » Puisque vous mentez, mais vous êtes fils du diable parce que le diable, il est menteur dès le début. Puisque vous péchez continuellement, vous pratiquez le péché, vous êtes enfant du diable parce que c'est ce que le diable fait depuis le commencement. Et il dit cela, en disant cela, il s'adresse, à, je l'ai dit tout à l'heure, à des personnes qui font tous leurs efforts pour suivre la loi de Dieu. Donc Jésus dit qu'en matière de péché, c'est tel père, tel fils. Tel père, tel fils. Et ça fonctionne très bien ici. Dieu n'est pas, dit Jean ici, le père de tous les hommes. On le voit ici, hein. Il dit, il y a ceux qui sont enfants du diable et enfants de Dieu. Ça veut dire que Dieu n'est pas le père, il est le créateur de tous les hommes. Mais dans ce sens-là, il dit, il est le père de ceux qui sont régénérés, de ceux qui vivent pour lui, de ceux qui sont en communion avec lui par la foi en Jésus-Christ. Donc, Jean ne donne pas beaucoup de développement, je ne le fais pas non plus, mais il dit une chose qui est importante que nous voulons retenir ici, c'est que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Peu importe ce que l'on pense, peu importe comment on l'appelle, il faut savoir que quand je pêche, je transgresse ouvertement la loi de Dieu. Mais il dit la même chose aussi au verset 5, il dit « Or, vous savez que Jésus a paru pour ôter le péché, et il n'y a point en lui de péché. » Alors il dit, il faut comprendre quelle est la nature, l'origine du péché, mais ici il dit, il faut comprendre quel est le but aussi de l'œuvre de Christ, ou le but de la venue de Jésus-Christ. Il dit, vous savez que Jésus a paru pour ôter les péchés. Puis au verset 8, il dit, le Fils de Dieu a paru, encore une deuxième fois l'expression, afin de détruire les œuvres du diable. On comprend que les œuvres du diable, c'est le péché. Et il dit, vous savez ces choses. Ce ne sont pas des choses nouvelles, mais ce sont des choses qui ont besoin d'être rappelées. Vous les savez déjà. C'est pour cela qu'il est venu ici. Jésus est venu pour ôter les péchés. Là encore, on pourrait penser à beaucoup de raisons pour lesquelles Jésus est venu. Jésus est venu pour nous préserver de la colère à venir. C'est vrai, la Bible le dit. D'accord ? Jésus est venu, non pour, j'en dis, pour nous juger, mais pour sauver le monde. Mais Jean affirme ici que de manière fondamentale, la venue de Jésus a rapport avec le péché. Et il est venu pour abolir le péché. Il est en train d'écrire à des personnes qui ont des vues particulières sur le péché. Il dit, n'oubliez pas, le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Et celui qui le pratique, il transgresse la loi de Dieu. Et deuxième chose à ne pas oublier, c'est que Jésus est venu pour ôter le péché. C'est pour cette raison fondamentale qu'il est venu. C'est la principale raison de sa venue. C'est sa grande mission. Et la Bible, si vous lisez la Bible, vous ne pouvez pas échapper à cette vérité-là. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Ésaïe 53 le dit, hein, ce sont nos péchés qu'il a portés. Mais souvenez-vous, dans le Nouveau Testament, lorsque l'ange rencontre Joseph qui est sur le point de se séparer de Marie, sa fiancée, parce qu'elle est enceinte. L'ange lui dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Par son nom même, il indique quelle est la raison de sa venue. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jean-Baptiste présente Jésus en disant quoi ? Voici l'agneau de Dieu, le même mot que Jean emploie ici, qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans Romains 8, verset 3, je vous lis, il est dit ceci, « Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché. » Il dit « en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. » Il dit que Dieu a envoyé Jésus-Christ à cause du péché. Donc la raison principale de sa venue, c'est le péché, c'est de devoir traiter la question du péché. Et dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons ceci, Hébreux 9, verset 25, ça résume un peu ce que l'apôtre Jean dit ici. Il dit, « Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même, Hébreux 9, 25, ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme souverain sacrificateur, entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que, maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Voici la raison de sa venue, dit Jean. Voici la raison de sa venue, dit l'Épître aux Hébreux. Christ est venu, il apparut une seule fois. Une fois pour toutes, afin d'abolir le péché, et comment ? Il l'ajoute par son sacrifice. Et donc, voici le but du sacrifice de Jésus-Christ. C'est d'abolir le péché, de détruire le péché, d'ôter le péché, de détruire les œuvres du diable. Ça, l'apôtre Jean est en train de dire, attention, ne considérez pas le péché de n'importe quelle manière. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu. On ne peut donc penser à Jésus en le déconnectant du péché, de la question du péché. On ne peut pas célébrer la table du Seigneur en la déconnectant du fait que c'est pour ôter le péché que ce sacrifice a été accompli. Donc chaque fois que je me souviens de Jésus-Christ, chaque fois que je me souviens de son sacrifice, doit être aussi présent dans mon esprit que c'est pour ôter le péché qu'il a fait cela. C'est pour ôter mon péché qu'il a fait cela. Et non seulement il est venu ôter la condamnation du péché, hein, c'est-à-dire la pénalité du péché, le jugement qui risque de tomber sur nous à cause du péché, il a enlevé ces choses, mais il n'a pas fait que cela, l'auteur dit ici, hein, qu'il est venu ôter jusqu'au fruit même du péché, parce que c'est au pluriel, si vous regardez au verset 5, vous le savez, Jésus a paru pour ôter, il n'a pas dit le péché, mais les péchés. Il est venu pour ôter le péché, pour détruire le péché dans ce que le péché est, d'accord, dans la condamnation qu'entraîne le péché, mais aussi il est venu s'occuper de la question des péchés en particulier, qui sont le fruit du péché. Et c'est tout ce que développe l'apôtre Jean dans son épître ici. Et donc le problème le plus crucial que nous avons, le problème le plus crucial de l'homme, ce n'est pas la nature, il n'est pas de nature économique, hein, il n'est pas de nature écologique, sanitaire, ou maintenant on parle beaucoup de géopolitique. Le problème, c'est le problème du péché. Et quelqu'un a dit ceci, hein, a dit « Heureuse humanité si elle n'avait jamais fait l'expérience du mal ». Essayez d'imaginer comment serait notre monde si Adam n'avait pas péché. On ne parlerait pas d'écologie. On ne parlerait pas d'économie, de crise. On ne parlerait pas de géopolitique, de crise géopolitique. On ne parlerait pas de mort. D'accord ? L'humanité aurait été heureuse. Pourquoi elle est malheureuse ? Ce n'est pas à cause des problèmes économiques. Ça c'est les conséquences. Les conséquences de cette chose qui s'appelle le péché et qui est la transgression de la loi de Dieu. Et on voit que c'est ça le problème principal de l'homme, parce que Jésus n'est pas venu pour régler les problèmes économiques, hein, ou politiques. Les Juifs, ils attendaient un libérateur qui allait les délivrer de la joute romaine.
Et rappelez-vous, les deux disciples d'Emmaüs, ils ont dit, nous espérions que c'était lui, que ce serait lui qui nous délivrerait, mais maintenant, ça fait 3 jours, il est mort. D'accord? Ils avaient placé leur confiance dans ce Jésus conquérant, libérateur, qui va renverser l'ordre politique. Mais ce n'est pas ce qu'il est venu faire. Il est venu faire ce qui est plus important que cela. Il est venu régler la question des péchés. Christ a paru pour ôter les péchés. Et Jésus le rappelle même quand il parle de la, quand il institue la Sainte Cène. Il dit ceci. La Bible dit pendant dans Matthieu 26, quoi. Il dit pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez. Ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Il veut que l'on se souvienne de cela. Faites ceci en mémoire de moi. Je veux que vous vous souveniez que ça s'est répandu pour la rémission des péchés. Péché, car le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour ôter les péchés. Et même lorsque l'on célèbre la scène, on se souvient que c'est pour nos péchés, que c'est pour ôter les péchés que Jésus-Christ est venu. Comment est-ce qu'il ôte les péchés? Jean ne le dit pas, mais dans plusieurs passages, il est dit en 1 Pierre qu'il porte nos péchés en son corps, qu'il souffre pour nos péchés, qu'il meurt pour nos péchés. 2 Corinthiens 5, 21 dit, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. » Et Jean le souligne, il dit, « Il est venu porter les péchés, il est venu ôter les péchés, mais lui-même était sans péché. » Et donc Dieu a posé ses péchés, nos péchés, sur lui, et il a puni sur lui nos péchés. Parce que lui-même, il n'a rien subi pour lui-même. Il n'a jamais péché. Et personne n'a jamais pu le convaincre de péché. Toute sa vie a été une vie sans péché. Et même après, il était toujours sans péché. Il n'a pas été pécheur parce qu'il a porté le péché. Il est demeuré sans péché. En lui-même, dit Jean, il n'y a point de péché. C'est pour montrer aux croyants combien c'est important. Il dit, il ôte, mais en lui-même, il n'y a point non plus de péché. Celui qui est votre sauveur, votre Seigneur, il n'a jamais péché. Donc, vous devez comprendre, dit Jean, que le but de la venue de Christ, c'est d'ôter les péchés. Lui, et lui-même, il a été sans péché. Et puis, troisièmement, il dit, cela a des conséquences. Cela a des conséquences. Et vous devez comprendre aussi, donc, que la communion avec Christ exclut la pratique du péché. La communion avec Christ exclut la pratique du péché. Quiconque, verset 6, demeure en lui, ça c'est la communion, ne pratique pas le péché. Et quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Encore là, Jean, c'est blanc ou noir. D'accord ? Tu pratiques le péché, tu ne l'as pas connu. C'est ce qu'il dit, hein ? Tu demeures en lui, tu ne pratiques pas le péché. C'est comme ça. Alors, ça demande bien sûr un peu d'explication. Quiconque demeure en Christ ne pèche point. Il parle ici des chrétiens. Il ajoute, quiconque pèche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Il parle ici des non-chrétiens. Ce qui qualifie un non-chrétien, c'est qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas vu Christ, alors il pèche continuellement. Ce qui caractérise un chrétien, c'est qu'il connaît Christ, qu'il demeure en lui. Au verset 9, il dit qu'il est né de Dieu, que la semence de Dieu est en lui. La conséquence, c'est qu'il ne pratique pas le péché. Ça, c'est le Saint-Esprit qui le dit. Ce n'est pas Jean tout seul. Et donc, Jean éclaire le chrétien sur ce qui caractérise les chrétiens et les non-chrétiens. Le fait de connaître Christ et de demeurer en lui, d'être en communion avec lui, et les implications que cela a, sur la vie de tous les jours, et particulièrement en rapport avec le péché. Il dit, au regard de ce qu'il a dit sur la nature du péché, sur le fait que le péché, c'est la transgression de la loi, au regard de ce qu'il a dit sur la venue de Jésus-Christ, sur le fait que Jésus-Christ est venu pour ôter le péché, il dit, vous ne pouvez pas penser que vous allez vivre en prenant que vous êtes à Christ et en continuant à pécher. Il dit, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, pourquoi est-ce qu'il le fait? On a dit tout à l'heure que la première épître de Jean, ici, avait pour but d'assurer les chrétiens. Hein. Jean 5, 13, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Mais à l'époque de Jean, il y avait des faux docteurs qui sévissaient. Et c'est pour ça qu'il écrit 1 Jean 2, verset 26, par exemple, il dit « Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. » Et dans le chapitre que nous sommes en train de considérer, au verset 7, il dit « Petits enfants, que personne ne vous séduise. » Donc il y a des séducteurs, des gens qui viennent avec de faux enseignements et qui vous racontent n'importe quoi. Et que disaient ces hérétiques? Entre autres choses, il y avait ce qu'on pourrait appeler une négation du péché dans le comportement. D'accord ? Ils disaient, voilà, nous sommes devenus parfaits, et ce que l'on fait, ça n'est pas, il n'y a pas de péché. Okay. Et l'apôtre Jean, il dit, chapitre 1, verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. » Et au verset 10, il dit, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » Alors il dit, non, c'est pas vrai. Il dit, je n'ai jamais dit que le chrétien ne pêche jamais. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Ceux qui disent, on est devenu parfait, il n'y a plus de péché. Il dit, non, c'est pas vrai. Si nous disons ça, nous sommes menteurs et nous faisons Dieu menteur. Mais de notre côté, il y avait ceux qui disaient que, ce qu'on fait dans le comportement, c'est pas important. Ce qu'on fait dans la vie, c'est pas important. Ce qui est important, c'est l'esprit. Ce qu'on fait avec le corps, ça n'a pas une grande importance. En d'autres mots, on peut être chrétien, né de nouveau, né de Dieu, et faire avec le corps ce que l'on veut. Ce que l'on fait avec le corps n'affecte pas la réalité spirituelle. Il y avait cet enseignement-là qui courait aussi. Et nous trouvons aujourd'hui, encore de nos jours, ce genre de raisonnement. Il y a des gens qui disent « je suis croyant, mais non pratiquant ». Réalité spirituelle qui est là, même si dans les gestes, cela ne suit pas. Et je crains aussi que, sans le dire parfois dans nos milieux, on ait adopté aussi parfois cette pensée « je suis chrétien, quoi que je fasse, car j'ai cru en Christ ». Après tout, on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi. Si j'ai la foi, je suis sauvé, peu importe ce que je fais, disent certaines personnes. Ce que je fais n'est pas bien, mais ça n'est pas si grave que ça, parce que ce n'est pas par les œuvres que l'on est sauvé. Et nous avons peut-être connaissance parfois de vérités bibliques, et nous prenons ça comme notre assurance, l'assurance de notre appartenance à Dieu. Parfois, on prend la paix que l'on ressent avec quelque chose. J'ai la paix avec ça. Hein? La paix devient notre juge de paix, quelque part. Hein? Je me sens en paix avec cette décision. Et ça nous suffit. Ça nous suffit. Parfois, nous avons notre conviction que nous avançons. J'ai la conviction que c'est comme ça qu'il faut faire ou que c'est ainsi que sont les choses. Mais Jean dit ici qu'il y a des signes, normalement, qui distinguent le croyant du non-croyant, ici. Verset 10, il dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il y a des signes, des tests qui permettent de savoir où on est. C'est ce qu'il est en train de dire, quelque part, ici. Et donc, il dit, le chrétien qui affirme être en communion avec Christ doit exclure le péché de sa vie. Il y a incompatibilité entre la communion avec Dieu et la pratique continuelle du péché. Je relis ce qu'il dit. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché.
Et quiconque pratique le péché ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Autrement dit, il ne demeure pas en lui, ici. Il est en train de dire qu'il y a un principe d'incompatibilité entre le fait d'être en communion avec Dieu et de pratiquer le péché. Il ne dit pas que le chrétien ne pêche jamais. Il ne dit pas cela. Avant, il dit, si vous dites que vous n'avez pas péché, vous mentez. Et au début du chapitre 2, il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, donc il acte cela, nous avons un avocat auprès du Père. C'est-à-dire que la question du péché, quand elle arrive, elle doit se régler tout de suite. C'est comme cela que l'on voit le chrétien. Mais si on persiste dans le mal, si on persiste dans le péché, si on continue, on continue, on continue, il dit, attention, il y a un grand danger. Parce qu'on ne peut pas affirmer que l'on est en Christ, celui qui est venu pour ôter les péchés, celui dans la vie duquel il n'y a point de péché, celui qui est mort pour les péchés, une fois pour toutes, celui qui nous donne sa vie, parce qu'il dit qui nous fait naître de nouveau, c'est ce qu'il dit ici, hein, quiconque, verset 9, est né de Dieu, celui qui a mis en nous la semence de Dieu par sa parole et par l'esprit qu'il fait résider en nous. Nous avons tout ça et nous pratiquons allègrement sans que ça nous chatouille le moins du monde le péché. Eh bien, il dit, ce n'est pas normal. Il dit, il y a quelque chose, c'est impensable. Hein? Ça ne doit pas être. Donc, comme on dit, il ne dit pas que le chrétien ne pêche jamais, mais il dit que le chrétien ne devrait pas pécher. C'est ce qu'il est en train de dire. Et que quand il pêche, il utilise tout ce que Dieu donne à sa disposition pour rétablir la communion avec Dieu. Avec Dieu. Et donc, il souligne la raison de cette incompatibilité. On l'a déjà dit, c'est le fait qu'il est né de Dieu. 1 Jean 4, dans le chapitre 4, il dit « Quiconque aime est né de Dieu ». C'est-à-dire que les fruits de la justice se manifestent dans la vie de ceux qui sont nés de Dieu. C'est comme ça, c'est une vie. Hein. Si un corps est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelle. L'apôtre Paul écrit aux Romains, il dit « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. » Pourquoi ? Parce que vous êtes mort au péché avec Christ. Vous êtes unis avec Christ. Vous demeurez en Christ. Et par conséquent, eh bien, vous ne pouvez pas pécher de la sorte. Le frère a lu le passage tout à l'heure dans Romains chapitre 6, hein, où il dit qu'on n'est plus sous les péchés, on a abandonné les péchés et on a obéi à la règle de doctrine en Christ. Hein. On n'est plus esclave des péchés. Dieu nous délivre de la condamnation du péché, mais dans le temps présent, il nous délivre du pouvoir du péché aussi. Donc le chrétien a cette possibilité, pas par lui-même, mais par Jésus-Christ, de résister au péché. Et quand il y a une chute, eh bien, de se repentir. La première chose qu'on devrait voir, c'est la repentance et la foi en Jésus-Christ. Mais il dit, si vous persistez à ne pas pratiquer la justice, un peu plus loin, à ne pas aimer, etc., à ne pas dire la vérité, ce sont les trois thèmes qu'il utilise, eh bien, il y a danger. Quiconque fait cela démontre qu'il reçoit, hein, qu'il a une autre filiation. Le chrétien ne doit pas agir de cette manière-là. Alors, pour terminer, je dirais ceci. Ce passage nous montre que naître de Dieu est une transformation profonde et radicale. C'est un changement qui atteint l'être intérieur et se manifeste par une vie droite. Hein? C'est ce qu'il dit. Petits enfants, verset 7, que personne ne vous séduise. Ne laissez pas les gens vous faire croire que vous pouvez faire ceci et cela en même temps. Ça ne marche pas. Et vous-même, ne vous trompez pas vous-même. Ne vous laissez pas croire que vous pouvez dire « Je suis au Seigneur et puis je continue à vivre comme je veux. » Il dit non. Il y a une relation de cause à effet, de père à fils. Il y a une filiation qui entre en jeu. Quand Dieu vous fait naître, c'est pour vivre de la vie de Dieu. L'apôtre Paul disait « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 19, nous lisons ceci. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et la phrase d'après, et quiconque
prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Voilà ce que l'on doit faire. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. La preuve, disait quelqu'un, que l'on est un chrétien n'est pas simplement le fait de croire droitement, mais également le fait de se conduire droitement. Et c'est le test que propose ici l'apôtre Jean. La nouvelle naissance, être né de Dieu, produit inévitablement une conduite qui est conforme à l'Évangile, dans laquelle la lutte contre le péché est engagée. Pas dans laquelle il n'y a aucun péché, c'est pas vrai. Personne ne peut dire « je suis sans péché ». Nous tous, nous péchons. Et nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre, dit l'Écriture. Mais la lutte contre le péché est engagée. Cela ne nous laisse pas indifférents, parce qu'on en est né de Dieu. Une deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que le péché est une affaire grave et il est important de prendre conscience de ce qu'est le péché et pas simplement de ce qu'il est chez les autres, mais de ce qu'il est chez moi-même. Et nous avons besoin tous de cela, où qu'il soit et sous quelque forme qu'il se présente, il est violation de la loi de Dieu. Et le péché ne doit pas être sous-évalué, mais pesé à sa juste mesure, la mesure biblique. Nous ne devons pas parler dans notre vie en termes de faute, en termes de maladresse. Oh, c'est juste ma langue qui a fourché. On ne peut pas mettre la responsabilité sur la fatigue, sur les circonstances, sur l'énervement, juste un petit peu d'énervement. Peut-être l'énervement lui-même est peut-être un péché d'ailleurs. Dans certains milieux, la responsabilité sera mise sur le démon, le démon du mensonge, le démon de la parole mauvaise, le démon, etc. Mais il est important, je crois, de ce que nous dit ce passage, d'appeler le péché par son propre nom. Le péché, même quand il se manifeste dans ma propre vie, est une violation de la loi de Dieu, est une transgression profonde de la loi de Dieu, est une rébellion contre Dieu. Et puis une troisième chose que nous enseigne encore ce passage, c'est que nous devons méditer aussi sur l'œuvre de Christ. Jean rappelle la raison de la venue de Jésus en rapport avec le péché, comme pour dire, si Dieu prend la forme humaine, il quitte son ciel de gloire, il devient homme pour ôter le péché. Nous devons comprendre à quel point le péché est un désastre. Et donc la méditation du remède que Dieu a apporté nous aide à prendre conscience et aussi à nous en détourner. La méditation du sacrifice de Christ, de ce qu'il a coûté pour ôter le péché du cœur et de la vie du croyant, parce que c'est de cela qu'il est question ici, eh bien, nous permet aussi de nous en détourner et de louer Dieu vraiment pour la grandeur de son œuvre. Il n'a fallu pas moins que Dieu quitte son ciel, qu'il ne regarde pas comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, qu'il prenne la forme humaine, qu'il devienne semblable aux hommes, comme un simple homme, et qu'il se rende obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, pour que le péché soit ôté. Et la Bible dit ici dans, je vais juste lire ce verset en conclusion, Hébreux chapitre 9, nous avons déjà lu les versets 26 et 27 de Hébreux 9, mais je relis le verset 26, il dit « Seul autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. » Et c'est ce que nous célébrons à chaque premier dimanche du mois. « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ qui s'est offert une fois pour porter les péchés de beaucoup, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Et c'est là notre espérance, n'est-ce pas? Le Seigneur est venu pour ôter le péché, mais il réapparaîtra, pas pour ôter le péché cette seconde fois, ce sera pour juger et pour prendre ses enfants avec lui. Mais ses enfants se font reconnaître par le fait qu'ils ne pratiquent pas le péché, mais qu'ils mènent une traque contre le péché. Quelqu'un avait dit ceci, il avait dit que la différence entre un croyant, c'est une image, mais entre un croyant et un non-croyant, c'est que le non-croyant poursuit le péché. Tandis que dans la vie du croyant, il fuit le péché, et le péché le poursuit pour le rattraper, hein, quelque part. S'il se laisse prendre, il se laisse prendre, mais c'est l'inverse, c'est-à-dire ce n'est pas son affection. Son cœur a une des affections différentes pour se détourner du mal. Que le Seigneur nous aide à considérer ces choses. Que devons-nous faire donc ? 1 Jean 1,9 nous dit que si nous avons péché, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc nous devons confesser nos péchés. Nous devons nous repentir. Nous devons savoir que nous avons un avocat qui est là pour intercéder pour nous. Et nous devons abandonner notre péché. Confesser, repentir et abandonner. Que le Seigneur nous aide. Nous allons prier. Oui, notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour cet enseignement de ta parole. Que tu nous aides dans ces temps que nous traversons, que nous vivons dans notre monde entier, de considérer encore que ce dont nous avons le plus besoin, c'est d'être délivrés de nos péchés. Et merci pour ce sacrifice que tu as accompli en Jésus-Christ à la croix du calvaire. Merci de l'avoir envoyé pour ôter le péché, pour régler la question du péché, pour détruire celui qui a la puissance de la mort, pour détruire les œuvres du diable. Et je te prie que par ton esprit qui agit en nous, tu nous rendes chacun de tes enfants conscients et sensibles au péché, où qu'il se trouve dans notre vie, et que nous nous en détournions par ta force. Merci pour toutes ces choses. Et nous te prions pour ceux qui ne te connaissent pas et qui sont ici ce matin, afin que tu attires leur cœur à toi. Seigneur, qu'ils viennent à toi dans la repentance et que, Seigneur, ils posent leurs péchés à tes pieds. Que tu les pardonnes, que tu les sauves, Seigneur Dieu, que tu leur donnes ton Esprit Saint et que tu agisses dans leur cœur pour la gloire de ton nom et pour leur bien. Merci pour toutes ces choses et que ton nom soit béni. Amen.